Nous allons continuer ce matin dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 15. Et donc on voit l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez qu'ils étaient supposés être une théocratie, c'est-à-dire un régime où Dieu devait régner. Et puis ils ont voulu être comme tous les autres. Ils ont voulu faire comme tout le monde. Et ils ont demandé un roi. Dieu leur a donné Saül, à qui a succédé David, à qui a succédé Salomon. David, c'est bien sûr une préfiguration du David qui va régner pour l'éternité, Jésus. David avait donc donné passé le trône à son fils Salomon, et le fils de Salomon n'avait pas su garder l'unité du royaume. Il y avait eu un grand schisme, une grande division du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, avec pour capitale éventuellement Samarie, et puis le royaume du sud, avec la capitale de Jérusalem, pour les deux tribus de Juda et la petite tribu de Benjamin. On aborde maintenant la partie où on voit les rois qui vont se succéder dans les deux royaumes. C'est intéressant parce que ce récit de un roi a des passages parallèles dans ce qu'on appelle le livre des chroniques, des rois de Juda. On dit souvent que l'histoire d'Israël est décrite dans un et deux rois selon le point de vue des hommes, et que les chroniques qui se centrent sur le royaume de Juda, duquel allait venir le Messie, c'est l'histoire vue de la part de Dieu. Alors c'est pas systématique, on peut pas être dogmatique sur ce point de vue-là, mais ça nous rappelle que des fois, on s'arrête à des faits, à des histoires en tant qu'homme, mais qu'on oublie que derrière l'histoire, Dieu est à l'œuvre. Dieu met en place les choses. On aime bien dire on vit une période historique. Toute période est historique du fait qu'elle se présente dans l'histoire. Mais on aime bien les histoires où il y a les moments où il y a des grands chamboulements. Dans les années 89-90, si vous vous souvenez, le monde communiste était tombé comme un soufflet qu'on aurait sorti du four trop tôt. Quand j'étais gosse, on avait l'impression qu'il y avait deux choses de longue durée qui s'opposaient, le communisme et le christianisme. En fait, c'était une vue complètement influencée par les médias, par la presse, par la télé. Le monde communiste, il avait 70 ans. Le monde chrétien, il remonte à Abraham, il remonte à beaucoup plus loin. Mais dans notre perspective, on avait l'impression qu'il y avait les communistes qui avaient autant de pouvoir que Christ. Et j'ose dire que maintenant, on a l'impression qu'il y a l'islam et qu'il y a Christ, et que l'islam fait jeu égal avec le christianisme. C'est la vue du côté des hommes. Dieu se moque des fausses religions. Et si on doit aimer les musulmans, on ne doit pas être intimidé par cette fausse religion. Et on doit aussi garder notre sang-froid, pas s'affoler. Ce sont des hommes que Dieu aime, que nous aimons. Nous avons des voisins avec qui nous entendons très bien. Mais nous ne devons pas être sous la peur. Dieu est bien plus grand que l'islam. Nous apprécions chez les musulmans le fait qu'ils ont un sens de Dieu, qu'ils ont un sens de redevabilité vis-à-vis de quelqu'un, pour la plupart. Nous apprécions le fait qu'ils sont prêts à discuter de leur foi, des fois avec zèle et passion. C'est beaucoup plus encourageant des fois que d'essayer de parler de Dieu quand on est à la fac avec des Français moyens qui en ont absolument rien à faire, qui sont complètement aveuglés, qui se moquent de Dieu, qui savent que Dieu n'existe pas, parce qu'on descend tous du singe, il suffit de voir nos visages, certains disent. Mais, encore une fois, c'est important de voir que Dieu est maître de l'histoire et qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas des guerres, qu'il n'y aura pas des problèmes. Mais encore une fois, soyons dans la joie et communiquons cette joie de l'amour que nous savons que Dieu a pour chacun de nous et pour tous les hommes. Et nous ne devons jamais prêcher la haine pour qui que ce soit. Dieu aime tous les hommes, il déteste le péché, il déteste les mensonges, mais il a compassion pour nous tous. Il y a quelque temps, on parle souvent du péché générationnel. Le fait que, parce que nos ancêtres ont fait la Saint-Barthélemy, la France est dans l'état où elle se trouve. Ce serait comme une punition divine sur la France. Que l'incrédulité des Français, les philosophes du XVIIIe siècle, les existentialistes du XXe siècle viennent comme une rétribution divine de ce que nous avons chassé, nous avons massacré notre pays. Les gens qui se réclamaient de la Bible, qui se réclamaient de Dieu, qui voulaient être des chrétiens dans tous les aspects de leur vie. Il est vrai que lorsqu'il y a eu ces persécutions, la plupart des chrétiens français, les huguenots, sont partis se réfugier dans les pays alentours. Ils ont par exemple fait la première réunion chrétienne sur le sol américain en Floride, avant l'épisode du Mayflower de Plymouth. Ils se sont rendus en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. C'était des gens qui, industrieux, qui avaient une grande moralité, qui étaient pleins de ressources, et ça a été la pauvreté, l'appauvrissement de la France d'un point de vue spirituel et aussi d'un point de vue même économique. Ces huguenots qui ont dû fuir, la France est restée sans témoignage, ou très peu. Il y a eu les assemblées du désert dans les Cévennes, mais là aussi le roi Louis XIV... nous avons l'habitude de considérer comme un « waouh ». Vive le roi Louis XIV, il donne de la gloire à la France. En fait, il a vraiment appauvri spirituellement. Et c'est vrai que le terrain a été préparé pour les philosophes qui rejettent Dieu, etc. Mais je crois que nous avons tous notre propre responsabilité. On a trop tendance dans notre société à rejeter la responsabilité sur les autres. C'est pas moi, c'est la faute à la société. Dans la Bible, certains s'appuient sur le passage qui revient souvent, une description de Dieu. Que l'on trouve dans le Deutéronome, dans l'Exode, Exode 34:6 par exemple. C'est Dieu qui se décrit à Moïse. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et donc, ceux qui prêchent le péché générationnel utilisent ce passage, qui est répété plusieurs fois, pour dire, voyez, il punit la faute des pères sur les fils, les petits-fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Encore une fois, pour avoir une idée juste de la vérité biblique, il ne faut pas se contenter d'un seul passage qu'on interprète sans contexte. Un des contextes qui paraît juste, c'est qu'à l'époque, il y avait des familles étendues très larges. On n'envoyait pas les grands-parents dans des maisons de retraite, ils restaient dans la tribu, dans le clan familial. Et donc, il y avait les générations qui étaient là. Et c'est vrai que si il y avait du péché dans la famille, ça affectait toute la famille. Il est vrai aussi qu'un mauvais environnement peut affecter, comme on l'a vu avec l'histoire des Huguenots qui ont été pourchassés, pourfendus, ça peut affecter ceux qui viennent après eux. Mais j'aimerais qu'on regarde aussi Ézéchiel 18. La parole, page 831 dans la Bible à la colombe. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'avez-vous à dire ? Ce proverbe sur la terre d'Israël. Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Ça, c'était justement on dirait aujourd'hui, les parents boivent et les enfants trinquent. C'est-à-dire que les pères se livraient à des choses qui n'étaient pas bien et c'était les enfants qui en souffraient. Mange des raisins verts, mais c'est pas eux qui ont mal avec l'acidité du raisin, c'est les enfants qui vont être affectés. C'était un passage, c'était un verset qui venait de Jérémie 31-29. Mais Dieu dit, arrêtez de dire cette histoire. Arrêtez. Verset 3, je suis vivant. Avec tout ce que ça sous-entend. La vie, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est l'énergie, c'est l'espoir. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, ou ainsi dit l'Éternel le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça, c'est une bonne réponse à ceux qui vous disent il n'y a rien à faire en France parce que Louis XIV et les autres rois catholiques ont pourfendu les vrais chrétiens. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne séduit pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son indisposition, qui n'exploite personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de la justice et juge selon la vérité entre deux hommes, qui suit mes prescriptions et observe mes ordonnances en agissant selon la vérité, celui-là est juste. Il vivra à coup sûr, oracle du Seigneur l'Éternel. Et ainsi de suite. Alors on peut dire, c'est waouh, c'est beaucoup de choses tout ça. Est-ce que je fais toutes ces choses? C'est là qu'on peut dire merci à la justification par la foi. Le fait qu'on est maintenant dans la nouvelle alliance, on est déclaré juste non pas parce que on se conduit de façon impeccable, sans péché, c'est ce que veut dire le mot impeccable, sans tache, mais parce que on met notre foi en ce que Jésus-Christ a fait. Mais on va voir dans l'histoire des rois qu'en fait, on n'est pas justement victime de notre passé, du passé de nos ancêtres, de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. On est tous appelé par Dieu à nous tourner vers son Fils Jésus. Et quand on se tourne vers lui, on est pardonné par ce Dieu plein d'amour, plein de compassion, riche de grâce, bienveillance. Et on va voir dans l'histoire des rois que, oui, c'est vrai, certains naissaient dans un milieu qui était très défavorable à leur foi, très favorable au péché, mais qu'à chacun était donnée la possibilité de dire « Stop, je me tourne vers le Seigneur ». Et ça, je crois que c'est un message dont il faut être convaincu, chacun personnellement, tous nous pouvons servir le Seigneur de tout notre cœur, nous tourner vers lui et faire une différence incroyable, formidable dans le monde qui nous entoure. Ça peut être dans le cadre de notre famille, ça peut être le cadre, encore une fois, de notre cercle d'amis, de parents, ça peut être un niveau plus élevé, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'à chacun de nous est donné la liberté de dire « Oui, Seigneur, je veux vivre pour toi ». Et si vous n'avez pas cette conviction que Dieu peut accepter cette décision, alors vous n'avez pas compris la Bible. Quel que soit votre arrière-plan religieux, quel que soit votre arrière-plan faussement religieux, quel que soit votre passé, le passé de votre famille dans l'athéisme, peu importe, nous sommes tous responsables. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui. Personne n'est responsable. Personne n'ose dire « c'est ma faute ». C'est des mots très difficiles à dire. C'est de ma faute, pardon. Peut-être les mots les plus difficiles dans la langue française et je crois dans bien d'autres langues, de dire « c'est de ma faute ». Mais si on fait cette démarche, si on se tourne vers le Seigneur de tout notre cœur, alors tout est possible et c'est un peu ce qu'on voit dans l'histoire des rois. On va voir les rois jusqu'à ce que le dernier roi, Sédécias, le roi du nord, du royaume du nord d'Israël, soit emmené en captivité par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Et là, on va voir qu'en fait, il n'y aura aucun roi pour rattraper l'autre. Ils sont tous de mauvais rois. Quelques-uns sont peut-être un peu moins mauvais, mais ils sont constants dans l'effort. Et puis, dans le royaume de Juda, on va voir que sur 19 rois, il y en aura à peu près 8 qui seront plutôt bons. Et aujourd'hui, on va en voir 3. Si on a le temps, 2 qui sont plutôt mauvais, et puis 1 qui est plutôt bon. Mais là aussi, ne voyez pas ces descriptions comme des descriptions de personnages historiques qui sont morts il y a bien longtemps. C'est le cas, mais c'est aussi parce que Dieu, à travers leur vie, veut vous parler, veut me parler. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10, sur qui la fin des temps arrive. Cela leur est arrivé, 1 Corinthiens 10, 11, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Aujourd'hui, si on n'est pas averti d'un danger, on espère toujours pouvoir intenter un procès à la compagnie qui a fabriqué l'appareil qui nous a fait du mal. On veut toujours un avertissement. Et des fois, ça peut être ridicule. Maintenant, sur les machines à tondre le gazon aux États-Unis, ils doivent indiquer que c'est pas fait pour tailler les haies. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques imbéciles qui ont pris leur tondeuse et qui ont voulu, en la portant à bout de bras, couper leur haie et se sont retrouvés avec des mognons. et ont intenté des procès. Donc maintenant, les compagnies doivent avertir. On doit nous avertir pour tout. Le principe de prudence, on doit nous avertir. Lisons ensemble le verset 1 du chapitre 15. On va voir le successeur de Roboam, roi d'Israël, de Juda, le royaume du Sud, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, ça c'était le roi au nord, Abiyam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom, ou Absalom, c'est le même nom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui assura une lignée royale à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il lui avait commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut la guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Le reste des actes d'Abiyam et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il y eut la guerre entre Abiyam et Jéroboam. Abiyam se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa place. 3 ans seulement, on a le nom de sa maman. Et c'est vrai qu'avec les passages parallèles des deux chroniques, on peut apprendre beaucoup plus de choses sur Abiya. Dans le livre des chroniques, page 449 de chronique 13, il est dit que le roi, qui s'appelle ici un peu différemment Abiya, régna sur Juda. Le nom de sa mère était Mika Yahou. Ce n'était pas un programme d'internet, c'était la même chose que Maaka, fille d'Uriel de Gibea. Il y a la guerre entre Abiya, donc au sud, et Jéroboam, qui était encore au nord. Il s'ensuit le récit d'un conflit où ce roi de Jérusalem, ce roi de Juda, avait 400 000 troupes, des hommes d'élite. Et il se rangea en bataille contre Jéroboam, qui lui avait le double de soldats. Et avant de commencer le combat, Abiya harangue, il interpelle les troupes et le roi d'Israël, Jéroboam. Et il leur raconte un peu, en fait, qu'ils n'ont aucune raison d'être un royaume à part, que Dieu a donné à David le royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable, verset 5. Il insulte le roi et il rappelle que Jéroboam, c'était le serviteur du roi Salomon, le fils de David, qui s'était rebellé contre le Seigneur. Il parle des gens qui suivent Jéroboam, il les appelle des gens de rien, des vauriens, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté. Ils ont gagné sur le roi, ils ont détourné donc ces gens du roi du sud. On se dit, s'ils voulaient mettre en colère ses adversaires, ce serait la meilleure façon de procéder. Il les insulte, il leur rappelle qu'ils n'ont aucun droit à réclamer le trône. Jéroboam, le prophète, lui avait promis en utilisant son manteau qu'il avait déchiré en 12 morceaux, en lui en donnant 10, qu'il allait avoir 10 tribus dans son royaume et que s'il se comportait bien, il pourrait vivre, avoir une dynastie éternelle, une dynastie sans fin. Mais Jéroboam, il voulait aussi les 2 autres du sud, il voulait tout. Et il leur dit, verset 8, « Maintenant vous dites que vous allez l'emporter sur le royaume de l'Éternel. » Judas, qui est entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous avait comme dieu des faux dieux. À Dan et à Bethel, des autels et des veaux d'or. Vous avez repoussé les sacrificateurs, les vrais prêtres, et vous avez institué une prêtrise bidon. Il suffit d'amener un peu de bétail et voilà, on devient sacrificateur, prêtre dans votre religion. Quant à nous, verset 10, quant à nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons pas abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont, par la loi, doivent être des fils d'Araon. Les Lévites sont à l'œuvre. Nous brûlons, verset 11, il explique comment ils offrent des sacrifices, des parfums, comment ils tiennent, ils s'occupent du temple, des chandeliers, des lampes. Et il dit, nous observons l'ordre de l'Éternel, notre Dieu, mais vous l'avez abandonné. Et il leur dit, voici Dieu, verset 12 de 2 Chroniques 13, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes éclatantes pour sonner avec éclat contre vous, fils d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. À ce moment-là, Jéroboam déclenche le combat. Ils essayent d'encercler les hommes de Juda, mais verset 15, les hommes de Juda lancèrent la clameur et les clameurs des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abia et Juda. Abia et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, de 500 000 hommes d'élite tombèrent, transpercés parmi ceux d'Israël. Et donc on voit comment Abia prend ensuite des villes importantes, Bethel et ses dépendances, Yeshana, Ephron. Et Jéroboam, il s'en remit jamais, l'Éternel le frappa et il mourut, verset 20. Mais Abia affermit son pouvoir, il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Ce dernier petit passage nous montre que même s'il connaissait l'histoire, s'il avait une certaine connaissance de la parole de Dieu, de ce qui se passait, il n'obéissait pas nécessairement à Dieu. Et son règne a été très court. Il avait eu une mauvaise influence, mais il est dit parce que, et en fin de compte, malgré cet épisode un peu encourageant, verset 3, on revient à 1 Roi 15, il s'est livré à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Roboam. Et son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel comme celui de David. Et encore une fois, on dit à chaque fois, c'est bizarre, David, on sait qu'il n'était pas, c'était pas un ange. Mais c'est vrai que la parole l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Il n'a pas vécu dans le péché. C'est un épisode que nous connaissons trop bien pour lui, sans doute. Son adultère avec Bathsheba, le meurtre d'Uri, le Hittite, et là, il est fait une petite remarque, il avait bien tout fait pour le Seigneur, excepté verset 5 dans l'affaire d'Uri, le Hittite. Et ça, on peut penser que c'est l'écrivain, c'est pas Dieu qui nécessairement voulait le rappeler, parce qu'on a vu d'autres passages où il est complètement absous, il est complètement pardonné, ses péchés sont oubliés. Mais Roboam, plutôt Abiam, le Seigneur l'a laissé gouverner pendant quelques années et surtout il lui a assuré une descendance par fidélité à David. Il aurait eu encore une fois la possibilité de marcher droit devant Dieu, il aurait pu décider avec l'aide du Seigneur de faire ce que son fils va faire, le roi Asa. Le roi Asa, c'était pas un grand photographe, pour ceux qui ont connu l'argentique. C'est pas aussi simplement un gars qui faisait des mots croisés. C'est un mot qui revient souvent dans les mots croisés, parce que A et ça marche partout. C'était un des grands rois de Juda. C'était pas un roi parfait. On va voir qu'il a bien commencé, et puis il a mal fini. Et en cela, sa vie est pleine d'enseignements pour nous. Lisons à partir du chapitre 15, verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna comme roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalon. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Ça, c'est un compliment. David, c'était un peu l'unité de mesure de la vertu d'un roi. Alors, tout de suite, vous me dites peut-être, mais attends, c'était la mère de son père, et c'est sa mère à lui aussi. David, c'était pas son père, puisque David avait donné naissance à Salomon, Salomon à Roboam, Roboam à Abia, Abia à Asa, donc c'était son arrière-arrière-grand-père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, son père? En hébreu, et aujourd'hui encore, ça peut simplement vouloir dire son ancêtre, aussi bien pour la mère, c'était sa grand-mère, que David, qui était son arrière-arrière-grand-père. Il fit disparaître du pays les prostituées masculins. Il enleva toutes les idoles que ses pères avaient faites. Il enleva même à sa mère Maaka la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole pour Asherah. Asa abattit son idole et la brûla dans le ravin du Cédron. Mais, toujours gênant ces « mais » dans notre vie, nous suivons le Seigneur, mais nous gardons un domaine où nous nous permettons de pécher. Mais les hauts lieux ne disparurent pas, quoique le cœur d'Asa fût entièrement à l'Éternel pendant toute sa vie. Alors là, on peut se dire, on a lu à par ailleurs que les hauts lieux avaient disparu. Et là, il y en a encore. Les hauts lieux consacrés aux faux dieux, aux veaux. On voit d'ailleurs, quand on va en Israël, on visite un des lieux où se passait ce culte de veaux d'or à Dan, dans le nord. On voit une reconstitution métallique du temple. Et c'est quelque chose de voir que ces lieux sont vraiment des lieux historiques et de savoir que c'est pas des légendes, des mythes. Ce sont des faits historiques, toutes ces choses-là. Les hauts lieux qui étaient consacrés à l'Éternel, il y avait des hauts lieux consacrés à des faux dieux. Et Jéroboam, lui, il avait voulu qu'on établir des faux lieux pour le vrai Dieu, mais cela aussi n'avait pas encore disparu. Il apporta, verset 15, dans la maison de l'Éternel ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-même, de l'argent, de l'or et des objets divers. Il y eut la guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Asa commence très bien, et là il est un exemple de ce que l'on peut venir d'une famille, d'avoir des parents, des grands-parents qui n'ont pas marché avec Dieu, qui se sont livrés au péché, qui se sont tenus loin de Dieu. Mais à tous il est donné de devenir le renouveau dans une famille. Il fait le ménage. On parle une deuxième fois de Maaka. Maaka, c'était de toute évidence une reine-mère qui avait eu beaucoup d'influence. Elle était la fille d'Absalom. Et là, on voit qu'en fait, c'était une mère indigne, une grand-mère indigne, qui se livrait à une religion d'immoralité sexuelle. Asherah, c'était la déesse qui était célébrée par des fêtes immorales. On a toujours, dans la race humaine, pris conscience de la puissance de la sexualité humaine. Et certains en font une idole, certains en font un culte. Et aujourd'hui encore, on peut vivre dans notre siècle et avoir comme idole la pornographie, avoir pour idole le sexe. Les publicistes le savent bien, qui vont vous vendre n'importe quoi, pourvu qu'il y ait une jolie fille qui tienne un outil industriel ou une voiture. Et cette mère, elle avait fait une idole horrible. Certaines versions nous parlent sans doute des représentations de sexe ou de sexualité impure. Et Asa va non seulement briser ses idoles, il va les brûler dans le ravin du Cédron. C'est aussi là que brûlaient les ordures de Jérusalem. Et il l'a destitué de son poste ou de sa dignité de reine-mère. Elle était respectée, elle devait sans doute avoir un entourage qui la servait, etc. Il la destitue. Il fit disparaître du pays les prostituées au masculin. Là aussi, il s'était installé, on l'avait vu dans les précédents chapitres, une fausse religion des dieux amoraux, des faux dieux, des idoles. C'est une religion d'idolâtrie qui employait des hommes et aussi des femmes comme prostituées sacrées. Donc on disait en essence que pour s'approcher de Dieu, on pouvait venir payer des prostituées, avoir des relations sexuelles, et je vous garantis que ça avait beaucoup de succès. Un peu comme aujourd'hui, on peut attirer les chrétiens des fois avec une soirée pizza plus qu'avec une soirée prière. Alors toute proportion gardée. Et je vise personne en particulier. Mais il avait bien commencé. Il a ramené des ressources dans la maison de l'Éternel. C'est toujours un signe de notre relation avec Dieu. C'est qu'on est généreux pour le Seigneur. On est généreux pour l'Église. On est généreux pour ceux qui nous entourent. Pas seulement en argent, mais en temps, en intérêt, en attention. Et puis, là aussi, on peut apprendre pas mal de choses en regardant le livre des Chroniques. On va garder un petit peu parce qu'il y a des leçons aussi. De Chroniques 15, l'Esprit de Dieu fut sur Azariahou, fils d'Odette, qui sortit au devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. » Donc un prophète, Azariahou, vient parler à Asa. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Asa venait de remporter une grande victoire sur Zéra et les Couchites. Ça, c'est au chapitre 14. Il avait une grande armée. Il avait près de 580 000 personnes sous ses ordres. Mais il y avait d'Éthiopie, de Couch, Zéra, un grand roi qui était venu avec 1 000 000 un million d'hommes, deux fois plus de monde que Gaza, et 300 chars. Aujourd'hui, on dirait 300 bombardiers ou 300 jets. C'était la puissance matérielle dans la guerre. Et il y a une bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maresha. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes complètement dominé numériquement par un adversaire, que toutes les probabilités sont en votre défaveur? Verset 10, il est dit « Asa invoqua l'Éternel son Dieu » et il dit « Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. » Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'attitude d'Asa nous rappelle dans 1 Samuel 14, 6. Lorsque Jonathan va attaquer les Philistins avec son jeune écuyer, avec son jeune assistant, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Et on connaît la suite. Dieu honore cette foi, cette confiance, et donne la victoire à Jonathan. Ici, c'est la même chose. Asa se dit que c'est pas nous, c'est pas après nous que viennent tous ces infidèles, ces athées, ces fausses religions. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui en France, dans le monde occidental, dans le monde chrétien. C'est pas vers des hommes, c'est vers toi, Seigneur, que ces gens attaquent, que ces gens martyrisent, que ces gens tuent des frères et sœurs au nom de la religion. Mais toi, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Tu peux aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. À un faible qu'à un fort. Et tu es notre Dieu. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir peur? D'avoir des obstacles, des situations où vous dites « Oh, je vais pas y arriver ». L'Église aujourd'hui en France peut se dire « On n'est qu'une poignée, on représente 1 ou 2% dans une marée d'incrédulité, d'athéisme. On peut pas espérer grand-chose. » Dieu se glorifie dans les petits nombres. Parce qu'on sait que c'est pas notre réseau, c'est pas notre fortune, l'argent de l'Église, c'est pas les moyens dont nous disposons. Si Dieu avance en France, c'est grâce à lui. C'est lui qui se glorifie. Ça veut pas dire qu'on doive cultiver une relation, une situation de ghetto, dire si on commence à être grand et avoir de l'influence. C'est pas bien, non, au contraire, on veut avoir de l'influence spirituelle. Et si Dieu choisit de bénir matériellement, Dieu choisit de bénir en nombre, alléluia. Mais ne nous fortifions pas dans nos pensées en pensant qu'on est nombreux, qu'on sait comment faire. Tout ce que nous avons, c'est l'Évangile, la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de n'importe qui. Pour les musulmans, pour les athées, pour les gens hostiles, pour les gens en colère contre les chrétiens. Dieu peut nous donner la victoire. Et verset 11, l'Éternel fit battre les Cushites par Asa et par Juda, et les Cushites s'enfuirent. C'est pas Asa qui l'a fait, c'est Dieu. Amen. Donnons-lui toute la gloire pour les victoires qu'il nous donne. Ne prenons jamais de la gloire de Dieu. Notre chair est là qui voudrait toujours se satisfaire des avancées, dire oui, c'est formidable, on a fait ça pour le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire parce que c'est lui qui peut. Tout ce qui arrive de bien, c'est grâce à lui. Et tout ce qui va pas, c'est mon problème. C'est notre problème, nous les hommes. Donc, au sortir de cette victoire, on est un peu surpris de cette prophétie de Dieu par Asa Yahou, qui lui rappelle un avertissement. Ne pas utiliser la tondeuse pour couper le voué. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Ça rappelle bien sûr Jérémie 29, 11. Passage tellement encourageant, qui était donné dans un contexte particulier de l'exil. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, dit l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. » Et verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Si nous cherchons de Dieu, il ne joue pas à cache-cache. Il se laisse connaître. Si vous le recherchez, disait Azariaou, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il vous abandonnera, pardon. Pendant de longs jours, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni prêtre qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. C'est une explication pour l'état du pays. Pendant de longs jours, il n'y avait pas de vrai Dieu, on ne pensait pas au vrai Dieu, on ne connaissait pas, on ne recherchait pas le vrai Dieu. Et puis ce petit verset, cette partie de verset, ni sacrificateur qui enseigne. Il n'y avait pas d'enseignement de la parole de Dieu, ni loi. Et ce qui va casser le béton d'incrédulité en France, c'est l'enseignement de la parole. Le prophète Jérémie a dit « Est-ce que ma parole n'est pas comme du feu qui peut briser le rocher ?» En dehors de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole, on peut s'agiter, on peut faire des tas de choses, on ne peut pas espérer que Dieu avance dans les cœurs. On peut rassembler du monde, on peut faire du bruit, on peut passer dans les médias. Mais ce qui compte, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Le réveil, certains le voient comme un moment de... un moment facile où tout va bien pour les chrétiens. Les gens viennent dans les églises, se repentent. Dieu est glorifié. On prie pour le réveil comme pour quelque chose qui viendrait nous aider. Mais le réveil doit commencer par moi. Il doit commencer par le sentiment de mon péché, par la repentance. Il doit passer par l'enseignement de la parole. Et certes, ces choses vont arriver, mais on ne peut pas compter sur le réveil comme sur quelque chose qui va nous faciliter la vie, qui va nous permettre de faire des progrès dans notre vie spirituelle. Nous pouvons décider de rechercher Dieu parce que, dans sa grâce, il va se laisser trouver, il va bénir. Dans ces temps-là, point de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants des pays. On se heurtait nation contre nation, ville contre ville, parce que Dieu les troublait par toutes sortes de détresses. Vous donc, soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Asa va continuer à faire de bonnes choses. Il va restaurer l'autel de l'Éternel à Jérusalem. Il rassemble tout Juda et Benjamin et même des personnes maintenant qui commencent à revenir d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, car un grand nombre de gens d'Israël venaient vers lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Les gens ne s'y trompent pas. En fin de compte, ils vont voir si vous êtes sincères, si Dieu est avec vous, et si c'est le cas, ils vont venir vous encourager, ils vont venir vous soutenir. Et ils font une grande fête à Jérusalem. Verset 10, « Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené, 700 têtes de gros bétail, 700 têtes de petit bétail, 7000 têtes, pardon, de petit bétail. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. » Waouh, ça c'est super ça. Et puis même, quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel à voix haute avec une clameur et au son des trompettes et des cors. Padantanan. Allez, on va tuer tous les non-croyants. On va faire des croisades. On va reprendre les lieux saints. Non, ça, c'est pas le réveil. On peut pas imposer par la loi, on peut pas imposer par l'État, par le roi, par n'importe qui, le président, la foi en Dieu. C'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de personnel. Et à chaque fois que on essaye de légiférer, on provoque une apparente religiosité. En fait, les cœurs rebelles de chaque homme sont prêts à se révolter dès qu'ils le peuvent, et surtout à se rebeller contre Dieu. Le cœur d'Asa, verset 17, était tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il n'y eut pas de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Pourquoi il est dit la 35e année? Parce que, verset 16, chapitre 16, la suite, la 36e année, il y a un combat contre Baïcha, le roi d'Israël. Et là, contrairement à ce qu'il avait fait la première fois, au lieu de dire « on va invoquer l'Éternel », peut-être parce qu'il est, les choses vont bien pour lui, il a vu des progrès. Maintenant, les hommes qui s'opposaient à Dieu sont morts. Il voit qu'il a imposé une religion à l'Éternel dans son pays. Il doit commencer à se prendre pour quelqu'un. Et il pense plus dans l'humilité à porter ses problèmes à Dieu. Et là, quand il y a une alliance, quand le roi Baïcha d'Israël vient pour l'attaquer, il essaye de faire une alliance avec un homme, Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Et il commence à compter sur ses ressources, sur son intelligence, sa stratégie, ses alliances, sa diplomatie. Et il y a un prophète qui vient, un voyant, Hanani, qui vient auprès de d'Asa, et qui lui dit, parce que, verset 7, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Il lui rappelle qu'avant il avait eu des victoires parce qu'il s'était appuyé sur l'Éternel, verset 8. Et puis il a ce fameux verset 9, car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Et il est dit que, verset 10, que Asa, lorsqu'il entend un reproche venant de Dieu par la part de ce prophète, ce voyant Hanani, il le fait mettre en prison. Parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette affaire. Et puis il opprima aussi quelques gens du peuple. Et puis, verset 12, il a les pieds atteints d'une grave maladie. On n'a pas les détails, c'était peut-être un problème sanguin, c'était peut-être un problème de malformation, mais encore une fois, il ne rechercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Lorsque nous sommes malades, c'est bien de prendre de l'aspirine, c'est bien de prendre du Mediator. Non, c'est pas bien de prendre du Mediator. Et tous les médicaments qu'on vous donne gratuitement, ces petites boîtes en carton, si vous pouvez les laisser tomber, il y en a qu'il ne faut pas laisser tomber, je ne veux pas donner des mauvais conseils, mais priez d'abord Dieu, prions d'abord Dieu pour notre santé. Et le résultat, c'est que Asa est mort la 41e année de son règne. Il avait bien commencé. Il est dit que son cœur était pour l'Éternel, mais les succès qu'il a eus, parce qu'il vivait pour l'Éternel, l'ont conduit à la présomption, l'ont conduit à oublier l'Éternel. Et en conclusion, ce verset, je vous le laisse, gardez-le dans vos cœurs. L'Éternel parcourt du regard toute la terre. Dieu voit tout. Il cherche. Et s'il trouve quelqu'un qui veut suivre Dieu, dont le cœur est entier pour lui, il va venir vous affermir. Il va venir vous soutenir. Il connaît les motivations de votre cœur, il connaît vos combats, il connaît votre péché, il sait que vous avez aussi des huris dans votre vie. Mais si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laisse trouver et il vous recherche. Ça, c'est quelque chose de fabuleux, de penser que Dieu est à la recherche. S'il est à la recherche de cette façon, c'est que ça ne doit pas se trouver à l'appel. Et mon invitation, c'est que vous soyez cette personne dont le cœur est tout entier à lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Mais quand vous péchez, vous lui demandez pardon. Quand vous avez un problème, vous venez à lui en premier. Une maladie, une épreuve. Vous lui donnez toute la gloire. Tout ce que vous pouvez faire de bien, c'est grâce à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais par Jésus-Christ, nous pouvons faire toutes choses. L'Éternel parcourt du regard toute la terre. C'est beau aussi ça. Pas seulement Israël, pas seulement les chrétiens américains. Partout, dans le monde musulman, dans le monde arabe, dans le monde athée de notre pays. Partout, il cherche. Est-ce qu'il va vous trouver ? Prions. Seigneur, aide-nous. Voyons combien même ceux qui peuvent bien commencer ont du mal à terminer, Seigneur. C'était un sujet que nous avions évoqué il y a quelques semaines. Salomon, lui aussi, avait bien commencé. Et Seigneur, nous voulons tous bien commencer. Mais Seigneur, aide-nous à persévérer, à garder le cap, à te donner toute la gloire, à venir à toi en premier lorsque nous avons des épreuves, des doutes, des questions, des chagrins, des mauvaises nouvelles. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Puisses-tu nous trouver, Seigneur. Puisses-tu venir nous voir, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Touche nos cœurs, touche nos vies, utilise-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.